Ce qui suit est une production de WebWest Balado en collaboration avec le Centre de la francophonie des Amériques. Bonne écoute! Les passionnés de la table ronde rassemblent des personnes qui ont quelque chose à dire sur un sujet donné qui intéresse les francophones de l'ouest et du nord du pays autour d'une table ronde. Aujourd'hui, la place de l'histoire et la culture francophone comme vecteur économique et culturel en Louisiane et dans le nord-est albertain. Nos passionnés, Virginie Dallaire et Joseph Dunn, rencontrés dans le cadre de l'Université d'été du Centre de la francophonie des Amériques à Lafayette, en Louisiane. Mise en contexte, la présence francophone a été très importante en Louisiane et en Alberta. La reconnaît-on et la valorise-t-on comme un outil de développement économique et culturel dans ces régions? Je m'appelle Yann Dallaire. Voici l'histoire et la culture francophone comme vecteur économique et culturel en Louisiane et dans le nord-est albertain. Bonjour à tous et merci d'être là. Commençons d'abord par présenter nos passionnés.
Moi, c'est Virginie Dallaire. Je suis d'origine québécoise. J'habite en Alberta depuis à peu près une dizaine d'années. Et j'ai travaillé dans les médias. Maintenant, je travaille pour un conseil scolaire. Et je dirais que peut-être ma connexion avec l'histoire francophone, ça a été surtout mon mari. Mon mari qui est un conteur-musicien, Roger Dallaire, et qui justement fait partie d'un festival là, un peu à la manière du Festival du Voyageur, le Festival du Canoë Volant, qui raconte l'histoire de la légende de la chasse-galerie, mais avec trois volets. Le volet autochtone, le volet francophone et le volet métis.
Et moi, c'est Joseph Dunn. Je suis Louisianais, d'origine française, d'origine acadienne. Ma famille est en Louisiane depuis le tout début de la période coloniale, 1716 à peu près. Je travaille principalement comme directeur des communications et des relations publiques dans une ancienne plantation de canne à sucre, maintenant maison-musée, qui s'appelle Laura, L-A-U-R-A. Et en plus de cela, je fais pas mal de petits projets qui touchent à la langue française et aussi à la langue créole en Louisiane.
Je pense qu'on va commencer tout de suite par demander à Joseph de nous expliquer très, très grossièrement la petite histoire ou la grande histoire, mais vraiment rapidement, de la francophonie en Louisiane.
La francophonie en Louisiane date depuis 1699 et a été et continue d'être influencée par beaucoup de groupes, dont les autochtones qui étaient ici d'abord, par les Français qui sont venus coloniser dans un premier temps à partir de 1699 et ensuite par différentes immigrations volontaires et involontaires, parce qu'il ne faut pas oublier de parler des Africains réduits en esclavage qui ont été emmenés en Louisiane pendant la période coloniale d'abord par les Français et qui, cet esclavage a continué jusqu'à la guerre de sécession. Donc c'est toute une mosaïque de populations très diversifiées dans leur couleur de peau, dans leur expression française ou créole qui constitue la franco-créolophonie louisianaise, parce qu'il faut insister, je crois, aussi à cette langue créole qui existe en parallèle avec le français en Louisiane depuis la période coloniale. C'est un peu cette diversification et la représentation de cette diversité que je défends dans tous mes projets, que je défends dans tous mes discours. Hein. Donc je pense qu'il soit vraiment intéressant et important de souligner cette diversité. Donc il est difficile d'avoir de vrais chiffres sur le nombre de personnes qui parlent ces langues d'héritage. On estime entre 100 000 et 250 000 les gens en Louisiane qui seraient capables de soutenir une conversation dans une de ces langues françaises ou créoles aujourd'hui, mais on continue quand même de les défendre, de les parler et d'essayer de trouver des moyens de les développer, notamment grâce à nos partenariats et les soutiens que nous avons de nos amis de la francophonie internationale.
Historiquement, les Africains qui étaient venus ici pour l'esclavage étaient francophones?
Non, ils le sont devenus.
Ils le sont devenus.
Ils le sont devenus en Louisiane. Ils sont devenus créolophones d'abord, parce qu'il faut admettre et reconnaître que la langue créole telle que les langues créoles, la base lexicale française parlée dans les différents espaces coloniaux français, ont été beaucoup plus influencées par les langues africaines parlées par les gens qui étaient réduits en esclavage, qui, selon la région, parler différentes langues africaines, donc au cours de l'histoire, parce que ces personnes parlaient différentes langues africaines et à différentes périodes de l'histoire, différents groupes ont été emmenés à différents endroits. Et il faut aussi reconnaître qu'à l'époque de la colonisation, le français n'était pas une langue standardisée non plus. Donc dans les espaces coloniaux, il y avait différents dialectes de ce qui est devenu le français qui était parlé. Et le clash entre les langues africaines et les dialectes de français ont donné naissance à des variétés de créoles qui peuvent différer d'endroit en endroit. Donc par exemple, le créole louisianais est beaucoup plus similaire linguistiquement au créole parlé à l'île Maurice qu'aux langues créoles parlées aux Antilles, parce qu'à un moment très donné de l'histoire, les langues africaines qui étaient parlées à l'île Maurice étaient les mêmes qui étaient parlées en Louisiane.
Est-ce que ce créole et cette francophonie, donc, étaient une fierté chez les Africains d'origine?
Je ne sais pas si c'était une fierté, c'était plutôt une question de survie. Parce que là, ils étaient réduits en esclavage et là, ils devaient pouvoir communiquer les uns avec les autres et aussi avec les gens qui les réduisaient en esclavage, donc les maîtres, entre guillemets. Ce qui a fait que, par la suite des choses, dans beaucoup de cas, spécialement dans les plantations de canne à sucre le long du Mississippi et même à la Nouvelle-Orléans, donc la grande ville, les Blancs pouvaient très souvent parler créole avant de parler le français normatif.
D'accord.
Parce qu'il faut se rappeler la proximité que les enfants avaient avec les enfants esclavisés et que ces gens-là étaient dans la plupart des cas élevés par des nounous créolophones. Et donc, ils se mettaient au français normatif à l'âge de la scolarisation.
D'accord. Et là, il y a le troisième groupe qui sont les descendants de l'Acadie, les Canadiens français issus de la déportation, j'imagine?
Tout à fait. Mais qui ne commencent à arriver qu'à partir de 1764. Il y a des petites immigrations de ces Acadiens déportés jusqu'en 1785. Donc, c'est une période de 21 ans laquelle ces Acadiens vont arriver en Louisiane en petits groupes. Donc, le groupe le plus important avait passé 25 ans en exil en France. Ils étaient 1600 qui sont arrivés en Louisiane en 1785 sur 7 bateaux, dont mes propres ancêtres qui, encore une fois, avaient passé 25 ans en France après avoir été déportés de l'île Saint-Jean en France. Mais ce qu'il faut souligner, puisqu'on en parle beaucoup au Canada de ces Acadiens, au même moment où les Acadiens arrivaient en Louisiane, le nombre d'Afro-descendants qui étaient déjà sur place était 10 fois supérieur.
10 fois. Wow. Et puis, moi, j'avais jamais même compris qu'on passait par la France. Enfin, 25 ans, ça change une vie, là.
Tout à fait. Donc, il y a beaucoup d'Acadiens qui sont nés en France, qui sont par la suite venus en Louisiane, parce qu'il y avait de la parenté déjà en Louisiane.
Ben, allons-y dans l'Ouest un peu, là. On va inclure Virginie, qui, elle, est albertaine. Issue du nord de l'Alberta, où est-ce qu'il y a beaucoup quand même de francophonie dans ton coin de pays?
Nord-Est, absolument. À travers notre province, on a deux grands centres, Edmonton, Calgary. Puis ensuite de ça, à travers la province, je dirais que, pas que la francophonie est différente, mais elle s'est établie différemment, par exemple. Parce que dans le nord-ouest de la province, dans la région de Rivière-la-Paix, il y a un petit village que j'adore. Moi, j'ai eu un coup de cœur, qui s'appelle Saint-Isidore.
Oui.
Et vraiment, ils ont un carnaval d'hiver. Naturellement, il fait des fois moins 30, des fois même moins 40. Et ça a été fondé par une dizaine de familles de francophones qui sont venues au Québec, qui sont venues du Québec, dans les années 60. Donc, on a déjà ça qui est, que là, je dois remonter dans le temps, là.
Ouais.
Mais en fait, naturellement, il y a eu différentes vagues de francophonie. Tu parlais des coureurs des bois en Ontario. Oui, il y a eu comme il y a eu des francophones qui sont venus dans l'Ouest. Ça a été aussi beaucoup marqué par le clergé des missions. Quand on parle Saint-Albert, toutes ces choses-là, les missionnaires sont venus. Moi, où j'habite, c'est Saint-Paul, la ville de Saint-Paul, mais c'est Saint-Paul des Métis, en fait. Donc, ça a été fondé par le Père Terrien, si je ne me trompe pas, cette mission-là. Et avec les francophones, on a aussi tout le volet autochtone, hein, quand je dis ça. Donc, toi, tu parlais d'esclavage, Joseph. Nous, c'est plutôt avec les autochtones qu'il y a différents rapports comme ça dans l'histoire. Donc, il y a ça. Puis ensuite de ça, il ne faut pas oublier, nous, les homesteads. Les homesteads, ces morceaux de terre-là qui étaient vendus pour 10 $. Moi, j'habite dans une maison centenaire. Monsieur Arthur Laberge a eu un homestead. Et en 1913, donc moi, j'habite dans cette maison-là de 1913 qui a été restaurée. Et avec sa femme, qui était Laura Adam, je crois. Mm-hmm. Peut-être que je me trompe sur le prénom. Mais Madame Adam, elle était venue avec son mari durant... son mari était malade de la tuberculose au Québec. Elle était venue dans l'Ouest parce que l'air est sec et frais. Donc, et ensuite de ça, il est décédé là-bas. Elle s'est remariée avec Arthur Laberge et ils ont eu aussi des enfants ensemble. Donc, ils se sont établis. Il y a beaucoup de familles dans les années 1910-15, tout ça, avec les homesteads qui se sont établis.
Alors, on donnait essentiellement des terres et on disait aux francophones de l'Est... Venez-vous-en dans l'Ouest.
Absolument. Puis aussi, il y a eu cette première vague d'immigration francophone qui est venue. Il ne faut pas oublier, comme je disais, que le clergé a joué un rôle important qui amenait, par exemple, des Québécois vers ces homesteads-là. On leur promettait des terres pour pas cher, mais ça dépendait quand tu arrivais sur place. On a entendu plusieurs histoires parce que... On a fait une série de capsules avec mon mari sur les francophones de notre région, comment c'est arrivé. Ça se passait aussi dans les années 60. Là, il y a eu une autre vague d'immigration francophone qui sont venues à cause, encore une fois, du clergé, parce que durant au Québec, quand il y a eu la Révolution tranquille, le schisme avec le clergé, il y a quand même dans les campagnes québécoises, il y avait déjà, comme en Beauce, par exemple, des gens qui sont venus dans l'Ouest, on leur promettait des terres, tout ça. Comme imaginez qu'on part du Québec où on a une ferme, on a l'électricité, on est bien établi, on a 40, 50, 60 ans, des fois, et ces familles-là déménageaient. Il y en a qui partaient avec une partie de leur famille, il y en a qui laissaient une partie de leur famille parce que leurs enfants étaient assez vieux pour se marier.
Parce qu'ils fuyaient la Révolution tranquille?
Non, mais ils allaient se rétablir. C'était des promesses de nouvelle vie, de meilleures terres, tu sais, parce que, comme justement, là, pour avoir une meilleure vie, puis ensuite de ça, quand tu arrives sur place, il faut que tu défriches complètement. Tu te rends compte que tu ne parles pas l'anglais, que tu ne peux pas avoir un commerce quand c'est ce qu'on t'a promis au Québec, quand tu n'as pas de voiture. Et donc, ça le fait naître une grosse entraide entre francophones.
T'sais. Les années 60, c'est hier. Mmh.
Je suis embarqué dans cette histoire. Excuse-moi de t'interrompre, mais là, ça me fait penser à ce que l'on voit à la télévision, donc l'expansion vers l'Ouest de ce qui est devenu les États-Unis au 19e siècle. Et là, tu parles des années 60. Là, ça me fascine.
Moi aussi, j'ai été extrêmement choquée parce que j'avais jamais connu ça dans ma famille. Donc, je me souviens quand je suis arrivée dans l'Ouest puis on parlait de cette histoire-là, je me disais, mais ça se passait quand? Je comprenais pas très bien, en fait. Puis quand j'ai vraiment réalisé ça, des gens qui partaient, ils devaient se faire une petite cabane en bois, là, comme ça. C'était assez incroyable, le recul. Puis fait que ces gens-là, c'est devenu des bâtisseurs puis des gens qui ont eu à cœur cette francophonie-là, qui se sont rassemblés. Puis maintenant, ce qui est différent, oui, on a eu aussi avec le boom pétrolier des gens qui sont venus de l'Est pour travailler. Puis
ça, c'est quelques années après quand même.
Oui, là. Je parle pas mal plus tard. Je parle de différentes vagues de francophonie. Il y a aussi, nous autres, on a l'attrait des Rocheuses. Donc, il y a beaucoup de jeunes Québécois partis sur un trip en sac à dos qui sont restés finalement. Ça, il y a des histoires comme ça. Puis en terminant, maintenant, la francophonie qu'on voit, elle vient beaucoup de l'Afrique. Donc, maintenant, on est dans un tout autre contexte où là, wow, tu sais, dans les grands centres, là, on est appelé à s'adapter énormément. Moi, je te dirais que c'est pas encore arrivé à Saint-Paul cette présence-là africaine. Donc, ça va être très, très intéressant de voir qu'est-ce qui se passe dans nos grands centres en Alberta, comment on va pouvoir amener ça, ou peut-être qu'il va plus avoir des histoires de réussite, d'inclusion dans nos petites régions que dans les grands centres. Ça va être à voir.
Mm. On a nommé le Québec, mais est-ce que l'Acadie s'est déplacée vers chez vous aussi?
Oui, absolument, okay. Absolument. Là, j'ai dit l'Est en général, mais l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve aussi. Il y a beaucoup de gens à Terre-Neuve qui sont venus travailler. Donc,
OK. Maintenant, sachant que l'histoire francophone est ancrée dans votre territoire, maintenant, si on explore la question du jour, comment on utilise l'histoire pour faire vivre cette francophonie, puis pour la faire rayonner même? Puis je vais te laisser la parole, Joseph.
Bon, en Louisiane, il y a une relation décalée, je dirais, avec la francophonie et la créolophonie, parce que souvent, c'est les grands-parents ou les arrière-grands-parents qui parlent français. Donc, c'est quelque chose dont les gens de notre âge peuvent avoir un petit souvenir, mais ce n'était pas la langue qu'eux, ils parlaient, parce qu'à partir de 1921, une nouvelle constitution de l'État de Louisiane est votée par la majorité américano-anglophone dans la législature, qui fait que la seule et unique langue de scolarisation, désormais, c'est l'anglais. Et beaucoup de gens ont été, tous les Louisianais qui parlaient une variété de français et de créole ont été assimilés de force.
Je pense que c'est important que je fasse une parenthèse ici parce que j'ai l'impression qu'on l'a tous vécu, mais différemment, cette imposition par le gouvernement. En tout cas, je sais que c'est le cas au Manitoba. Donc, une loi qui a empêché l'enseignement du français et qui s'est revenu dans les années... quelques dizaines d'années plus tard. Qu'est-ce qui explique que ça l'a affecté autant la francophonie en Louisiane, puis peut-être un peu moins la francophonie de l'Ouest?
Je reviens à cette question de diversité, parce que nous sommes dans un contexte du sud des États-Unis, et dans un contexte du sud des États-Unis, il y a le poids de la ségrégation et le poids du racisme. Donc si, par exemple, vous imaginez des enfants autochtones, afrodescendants et blancs qui sont ségrégés dans des écoles différentes jusque dans les années 1960, parce que ce n'est qu'en 1964 où l'intégration des écoles va commencer ici. Et chez toutes ces populations, il y avait des jeunes, des enfants qui parlaient français ou créole, etc., qui sont assimilés de force. Et cette assimilation, ce n'est pas seulement une assimilation linguistique, c'est une assimilation identitaire. D'accord ? Parce que quand on va ancrer l'identité américaine chez les jeunes, cette identité est ségrégée et on va voir... pas en face de soi un autre locuteur de sa langue, on va voir quelqu'un d'une race différente. Donc la force du mouvement de la Révolution tranquille, la force du mouvement francophone en Acadie, donc c'était dans mon optique un mouvement blanc, catholique dans la plupart des cas, mais bon, les populations étaient homogènes, je dirais comme ça. Ici, la faiblesse de tout cela, c'est que tout le monde était ségrégué, et donc ils ne pouvaient pas se mettre ensemble pour un mouvement francophone, un mouvement politique, social, économique, parce que pour que les anglophones maintiennent l'ordre et maintiennent le pouvoir politique et économique, il fallait que les gens soient ségrégés. Donc, c'est divisé pour mieux régner. Donc, on ne peut l'expliquer que comme ça, en fait. Comment est-ce que les gens l'ont vécu? Bon, au moment de l'imposition de l'anglais en 1921, il faut s'imaginer qu'on était dans des contextes assez particuliers en Louisiane, où c'est l'exploration pétrolière qui va commencer tout de suite après, après la guerre de sécession, donc on parle de la fin du 19e siècle, la ségrégation était vraiment institutionnalisée par les lois Jim Crow et tout cela. Et pour les gens qui parlaient français, parce qu'il faut aussi mettre en contexte qu'avant la guerre de sécession, le taux d'alphabétisation chez les Noirs francophones était de 90% chez les gens de couleur libre, comme on les appelle. Donc c'était supérieur au taux d'alphabétisation chez les francophones ou chez les anglophones aussi, qui étaient entre guillemets blancs. Donc il y a toute une lutte pour le pouvoir et pour la reconnaissance. Et à ce moment-là, pour que les francophones blancs essayent de reprendre le pouvoir économique et politique, il fallait qu'ils s'allient avec les Américains au pouvoir. D'accord ? Donc il y a toutes sortes de choses qui se passent à la fin du 19e siècle qui font que au 20e siècle, au début du 20e siècle, les gens n'avaient pas du tout cette possibilité de se réunir autour d'un projet francophonisant ou un projet francophone. Et si l'on avance un petit peu dans l'histoire, lorsque le CODEFIL, le Conseil pour le développement du français en Louisiane, a été fondé en 1968, au début des années 70, je peux vous montrer des articles dans la presse louisianaise et nationale aux États-Unis où certains politiciens élus craignaient que la Louisiane ne devienne un nouveau Québec ou un autre Québec avec ce mouvement francophone qui était naissante en Louisiane. Et c'était très, très intéressant l'année dernière quand au Québec, on parlait de louisianisation. Parce que, bon, les deux cas ne sont pas du tout comparables historiquement, de manière contemporaine non plus, parce que les contextes sont tellement, tellement différents avec la diversité de locuteurs ici. Donc, l'assimilation s'est opérée de manière très différente ici qu'ailleurs. Oui, il y a des lois ou des constitutions, des choses comme ça qui ont été imposées. Mais il faut aussi considérer le poids de la diversité et le poids de la ségrégation raciale sur la perte en vitesse des langues françaises et créoles ici.
Je veux revenir sur l'histoire ou comment on utilise l'histoire pour faire rayonner la francophonie, puis je vais passer la parole à Virginie, parce que je sais que dans ta famille, Virginie, c'est quelque chose d'important. L'histoire, c'est votre gang-pain un peu. C'est votre façon de vivre.
C'est un peu tout. Bien, je l'ai dit, hein, on habite dans la maison de M. Arthur Laberge, donc déjà, on vit dans l'histoire vraiment. On vit dans une maison centenaire. Avec toute cette histoire-là, on vit un mode de vie un petit peu à l'ancienne, ou un poêle à bois, mais on a aussi un chauffage de poêle. Je vous rassure tout de suite. Mais moi, je vous dirais que je me suis jamais autant sentie... Moi, mon mari s'identifie plutôt comme un Canadien français, même si c'est un francophone qui est né en Alberta. Mais lui, il trouve sa francophonie dans ce terme-là de Canadien français.
Au lieu de franco-albertain?
Au lieu de franco-albertain. D'accord. Donc ça le rejoint plus. Puis je pense qu'on l'a vu dans cette semaine-ci, que peu importe, c'est seulement une étiquette. Ouais. Donc j'ai découvert ma fierté canadienne-française grâce à lui, parce qu'il connaît tellement l'histoire, et tellement son histoire du Québec, tellement ses racines. Puis en plus, les racines aussi, j'ai renoué aussi avec... les traditions de la religion catholique, parce que c'est intimement lié avec aussi un mode de vie sur une ferme où, tu sais, on célèbre, on fait des fêtes, puis tout ça. Puis aussi, dans notre milieu, on a les écoles de confession catholique. Donc, tout ça. Donc, j'ai renoué avec mon identité francophone grâce à mon mari, pouvez-vous croire.
Ouais.
Et je viens du Québec.
Ben, c'est ça,
donc, parce que lui, ces traditions-là, c'est tellement important pour lui de savoir comment les gens faisaient les choses, comment les gens se réunissaient, et parce qu'il est conteur et musicien, et il fait partie, il est vraiment un peu la mascotte, comme on dirait, du Festival du canoë volant, qui raconte cette histoire-là de chasse-galerie. Puis ce que je trouve, puis il fait beaucoup, beaucoup de travail dans les écoles, il tourne dans les écoles, mais dans les écoles d'immersion.
Okay.
Les jeunes, ils retrouvent cette identité-là de francophonie. Souvent, ils ont un nom de famille, comme j'ai remarqué ici en Louisiane, un nom de famille francophone. Puis là, d'un coup, quand ils entendent Roger parler français, ils l'entendent parler, puis ils sont tous fiers de dire « Hey, moi, mon pépère, ma mémère, elle a un nom de famille francophone, où j'ai déjà entendu dire quelques mots en français. » Juste ça, de voir que lui... il a vu son histoire à chaque jour. Il est comme un peu un porteur de ça.
Oui.
Ça leur donne cette fierté-là de vouloir s'identifier comme ça, de vouloir continuer avec la langue française. Puis comme je parlais de ce festival-là du canoë volant, il y a beaucoup d'écoles qui viennent, et lui, il raconte l'histoire à partir de l'histoire des voyageurs de la traite de fourrure. Il est tellement un passionné d'histoire qu'en 2015, il a ramé des rocheuses jusqu'à la baie du Tson, le même voyage que les coureurs des bois empruntaient en canot. Joseph, tu me regardes fasciné. Oui, on n'a pas fini de se parler. Donc, vraiment de retrouver ses racines. Puis, il connaît juste plein d'histoires, de même des explorateurs français qui sont venus jusque dans l'Ouest pour explorer ce territoire-là. Donc, plus on connaît sa racine, plus on peut s'identifier. Comme je te disais, c'est en apprenant beaucoup sur l'histoire, même sur l'histoire de tous ces gens-là du Québec qui sont venus dans l'Ouest, comme tout ça, je me suis dit, oh, wow, tu sais, je reconnais des valeurs comme ça de travaillants, de gens qui ont à cœur la francophonie, parce que veux pas, quand on est en milieu minoritaire, puis je parle même pas de la Louisiane, parce que moi, je considère même pas que vous êtes en minorité, vous êtes une exception, presque, hein? Faut qu'on aille ça à cœur. Faut qu'on aille ça à cœur, puis je le sens ici, les Louisaniens, là, c'est dans leur cœur, parce que sinon, ils feraient rien. Ils vous existeriez pas si c'était pas dans votre cœur, tu sais.
Mais est-ce que ça marche, Virginie, le fait de faire la promotion de l'histoire, puis d'aller chercher une certaine fibre francophone chez peut-être la jeunesse, puis de dire, ah, regarde comment riche c'est historiquement que je veux embarquer dans cette francophonie-là?
Ça marche quand on met pas une étiquette dessus. Quand on dit pas, ah, oh, moi, mais toi, t'es pas un vrai francophone. T'es pas, tu sais, tu viens pas de ci, t'es pas un ci, t'es comme... Mon mari commence tout ça de sa présentation en disant, est-ce que vous parlez un peu français? Est-ce que vous venez de l'Alberta? Ah, oh, vous avez des racines? Ben vous êtes des francophones. C'est tout de suite.
Ouais.
Comme si c'était tout... On jette une base, là. Vous êtes déjà tout ça. Fait qu'on va pas s'ajouter une autre étiquette. On va pas se comparer. On est ici. Peut-être que vous allez en apprendre plus sur votre histoire, sur vos origines. Puis c'est juste un point de départ. C'est juste un point de départ pour apprendre à se connaître plus puis à vouloir s'ouvrir vers les autres, tu sais.
Joseph, je vais te lancer la balle sur ce que tu fais essentiellement, parce que dans la plantation, j'ai l'impression qu'on enseigne l'histoire, mais on va aussi enseigner l'identité. On espère allumer une certaine fibre identitaire.
Oui, tout à fait, parce que là, on a parti tout le sujet, tout le thème de la plantation, c'est la Louisiane créole, et créole dans le sens large, pas du tout dans une optique de couleur de peau, mais dans une optique d'identité en opposition à l'identité américaine. Et une plantation, c'est une énorme ferme à culture unique, et là, tout le long du Mississippi, au contraire de ce que l'on peut imaginer de par les films et la lecture, c'est pas le coton, c'est la canne à sucre. C'est la canne qui a fait la richesse de la Louisiane au 19e siècle.
OK, d'accord.
Et c'est une question de commerce. Bon, aussi, dans le thème de cette université d'été, on est vraiment sur le commerce et l'économie. Virginie, tu parlais des coureurs de bois, tu parlais de la traite de fourrure. Tu sais, la raison pour laquelle les Canadiens français sont descendus par ici, c'est parce que pendant 6 mois de l'année, le Saint-Laurent est gelé et les Canadiens français n'arrivaient pas à exporter leur fourrure vers l'Europe. Et de par les alliances avec les autochtones partout sur le territoire nord-américain, bah les Français ont appris que, par les grands lacs et pour les cours intérieurs d'eau, les rivières, etc., ils pouvaient arriver au Messachébé. Le Messachébé, c'est le père des eaux, c'est le Mississippi. Donc les Français ont entendu de la bouche des autochtones ce mot « Messachébé » qui a été transformé en « Mississippi ». Et c'est comme ça qu'ils ont décidé d'explorer l'intérieur du pays et de descendre le Mississippi pour ensuite aller dans le golfe du Mexique et pour pouvoir exporter les fourrures. Donc on est vraiment dans un contexte de non seulement mobilité, mais de mobilité économique, parce que c'était la traite des fourrures. À la plantation, nous sommes vraiment sur ces questions d'identité et d'un monde où... 85% des plantations de canne à sucre. Il y en avait à peu près 350 alignées sur le Mississippi entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Pour les auditeurs, les auditrices, si vous pouvez imaginer le Saint-Laurent et à l'époque, comment les domaines et les seigneuries étaient disposés le long du Saint-Laurent, c'était pareil pour le Mississippi. Donc, c'est comme
ça
que...
français, essentiellement.
Exactement, ouais. Exactement. Et pour les Français de France, c'est comme les châteaux sont alignés sur la Garonne ou sur la Loire.
L'idée, donc, c'est que chacun ait accès au cours d'eau.
Au cours d'eau, parce ouais. que c'était le chemin commercial, le cours d'eau, d'accord ? Et voilà que, oui, sur quatre générations, on est sur l'histoire d'une famille d'origine française, d'origine canadienne-française, qui va exploiter ce terrain avec les afro-descendants tenus en esclavage pour produire le sucre. Et comme à la fin de l'histoire, on découvre que Laura, l'arrière-petite-fille des fondateurs, prend la décision consciente de devenir américaine parce qu'elle voit à la fin du 19e siècle que le monde change. Tous ses cousins germains vont repartir en France. Donc à ce moment-là, il y a ce divorce, en fait, dans la famille, où tous les cousins germains repartent en France et elle décide, avec son frère et sa sœur, de rester ici aux États-Unis et de devenir américain. Et Laura va élever ses enfants en anglais. En ses mémoires, qu'elle a écrite dans les années 1930 à Saint-Louis, dans le Missouri, parce que son mari était originaire de cette ville-là. Son mari était américain et protestant. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment les repères pour à quel point c'était quelque chose pour une fille créole catholique de la Nouvelle-Orléans d'épouser un presbytérien américain de Saint-Louis, mais c'était quand même quelque chose. Pendant 6 ans, ils ont gardé leur fiançailles secrètes. Et Laura, après, va partir à Saint-Louis, va élever ses enfants comme américains. Et dans les années 1930, elle écrit ses histoires. Elle écrit ses souvenirs pour ses familles. La découverte de ce manuscrit en 1993, par le plus grand des hasards, a ouvert toutes sortes de portes et de fenêtres sur la recherche, ce qui nous ont emmenés en France, aux archives nationales françaises. Et toujours est-il aujourd'hui qu'on découvre des choses, des lettres, des documents, des testaments, des actes notariés dans les archives en Louisiane et en France qui touchent justement à l'histoire de la plantation. Donc c'est c'est toute une épopée que l'on va traverser avec les visiteurs.
Quelle est la place de la francophonie ou du français dans cette plantation, dans cette visite, dans ce musée?
La place du français, bon, c'était un lieu, depuis le début, qui existe en langue française. Ouais. La maison n'était habitée que par deux familles depuis sa fondation jusqu'à sa vente en 1984. Donc deux familles, parce que la famille de Laura était là de 1805 jusqu'en 1892. Donc Laura l'a vendue à une deuxième famille qui est restée là jusqu'en 1984. Et jusqu'en 1984, il y avait deux sœur célibataire de la deuxième famille, qui, vieille dame, parlait entre elles en français dans cette maison. Donc le français fut parlé dans cette maison pendant toute la période, tout le temps qu'elle était habitée. Et la place du français aujourd'hui, 20% de notre fréquentation annuelle et francophone, venant principalement de France, parce que c'est un centre de population, évidemment, mais aussi du Québec, aussi du Canada francophone, de la Caraïbe, de l'Afrique, d'un peu partout.
Est-ce que ces gens-là cherchent de la francophonie quand
Oui. Ils cherchent la francophonie louisianaise. Ils sont attirés par cela. Et très souvent, ce sont des gens qui auraient déjà pu passer une semaine en Louisiane. Et lorsqu'ils arrivent chez nous, très souvent, ils vont nous dire « Mais enfin, on trouve de la francophonie. Enfin, on trouve des gens qui parlent français, qui peuvent nous expliquer ce que c'est que la Louisiane francophone. » Parce que dans les hôtels, dans les restaurants, dans les autres sites historiques, ce n'est pas du tout valorisé ou mise en évidence. Et depuis le début du projet, ça faisait partie de notre notre projet et de notre perception, de notre conceptualisation de comment nous allions faire vivre cet espace.
Un regard vers l'avenir peut-être, puis on va conclure. Il nous reste une minute et quart, là. Virginie?
Bien, moi, je sais qu'en Alberta, il y a beaucoup de potentiel pour cette francophonie-là parce que il y a beaucoup d'organisations. On est choyé de ça, en fait. On a aussi on a une politique linguistique. D'abord, ça, c'est une très belle avancée. On continue, on a beaucoup de combats légaux qui se poursuivent par rapport notamment au campus Saint-Jean. Donc, l'éducation postsecondaire en français, je dois préciser. Mm-hmm. Donc, déjà ça, donc on sait qu'il y a encore, il va y avoir cette francophonie-là, cette éducation-là en français. On veut la pérenniser. Oui, notre population francophone change. Donc, c'est ça qui va être intéressant, je pense, de voir comment cette arrivée-là de francophonie africaine va s'adapter avec toute aussi cette histoire-là de francophonie, de ces arrivées-là, ces différentes arrivées-là de francophones. Donc, pour l'instant, on est encore un petit peu, moi, je trouve, dans le clash de culture, mais plus on s'ouvre et plus on discute ensemble, on a des intérêts communs. D'abord, l'éducation de nos enfants, la santé de nos aînés. Nous, on a pas mal d'aînés francophones en Alberta, surtout en région. Mm-hmm. Donc, toutes ces choses-là, c'est des choses qui nous rejoignent. Et notamment aussi au niveau économique. Comment survivre nos entrepreneurs aussi, hein, encourager ça. Donc, moi, je vois juste des belles choses, des gens motivés et des gens qui s'ouvrent vers la... Plus on va s'ouvrir vers les autres francophonies. Moi, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai rencontré Mavis Fruget et vraiment, j'en reviens pas encore parce qu'elle veut lancer une espèce de campus aussi d'artisanat francophone à Arnouville. Et moi-même, j'ai un métier à tisser chez moi. Donc, je me dis, il faut pas, et je sais qu'il y a des tisserandes aussi dans le nord-est de la province, le nord-ouest. Donc, je veux pas qu'on perde ces traditions-là. C'est pas juste lié à une langue, hein, c'est aussi lié à des traditions, c'est aussi lié à du culturel, de l'artisanat comme ça. Donc, moi, je vois juste des belles choses à venir, mais ensemble, il faut se soutenir dans cette francophonie-là.
En Louisiane, depuis le début de ce renouveau du français à la fin des années 1960 et au cours des années 70, 80, 90, etc., quasiment tout le focus sur le français en Louisiane a été misé sur les écoles. Donc le français dans les écoles d'immersion, et je suis assez rassuré de voir que enfin, parce que c'est mon cheval de bataille depuis 25-30 ans maintenant, que enfin on commence à être conscientisé au fait que ce ne sont pas seulement les écoles qui vont, entre guillemets, sauver le français en Louisiane ou préserver le français en Louisiane, c'est aussi la question de la valorisation sociale, économique et professionnelle des gens qui parlent français. Et je suis encore une fois assez rassuré de voir qu'on commence à avoir ces discussions qui touchent à la nécessité de créer des emplois en français pour que ces jeunes qui, je ne vais pas dire apprendre, mais qui se réapproprient le français, peuvent travailler dans cette langue, parce que c'est vraiment dans cet ancrage économique où ils vont trouver une raison de parler français. Parce que juste de dire que nos grands-parents parlaient français, ça fait partie de notre héritage, etc., ce n'est pas assez. Ce n'est pas assez. Il faut qu'il y ait vraiment des raisons pour parler français. Et ces raisons, il faut gagner sa vie, quoi. Il faut avoir cette impulsion et cette idée de parler français dans un lieu de travail et pour des raisons économiques.
Joseph Dunn de la Louisiane, Virginie Dallaire de l'Alberta, merci énormément.
Merci. Merci, merci à toi.
Vous venez d'entendre une production de WebWest Balado. Découvrez une multitude de contenus audio francophones du Nord et de l'Ouest sur webwest.ca. On s'entend là-dessus.